Chapitre 10. 8 jours ne s'étaient pas écoulés que Marthe se trouvait en possession d'un grand appartement qu'elle fit meubler avec un goût stupide. Pour se venger d'avoir autrefois mangé avec ses doigts, elle voulut avoir de l'argenterie, et elle n'eut garde d'oublier dans ses achats les faux cuivres de boule, les camelottes de bois de rose, les glaces à cadre trop dorés, les éternelles appliques emmanchées de bougies roses. Son amant ne se plaignit point, d'ailleurs. Pourvu que sa femme fût excentriquement vêtue et que se laissât entraîner dans les parties fines et sur les champs de course, il se tenait pour satisfait, puis il était enchanté d'entendre des gens miséricordieux dire en levant les yeux au ciel: mais ce petit imbécile est en train de se faire ruiner. L'idée qu'il fût capable de manger son capital le ravissait. Marthe fut révoltée par l'ineptie de cet être. Quand il amenait à sa suite une ribambelle de galopins barbus, coiffés en drôlesse et confins dans l'opopanax, et que d'autres, et dans le salon, il jabotait pendant des heures, célébrant avec des enthousiasmes d'idiots la gloire de Tartine qui avait gagné d'une longueur sur Jacinthe, alors que Saxitage et Mascara s'étaient dérobés à la barrière fixe, elle se froissait les mains avec rage. Elle eut, il est vrai, des diversions. Le lundi suivant, son cornac entraîna chez elle des hommes sérieux et considérablement ivres, qui lui prirent le menton et dirent avec des allures de mystère: vous savez, n'est-ce pas, que demain le marché sera très indécis, hésitant entre les facilités offertes et les méfiances répandues par la dépréciation des valeurs étrangères. Oh, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est d'être assuré que le Saragosse est ferme et qu'il donnera d'excellents dividendes. Peu, au fond, tout cela n'est pas brillant. Si certaines actions ont une bonne tenue, il est véritablement triste que notre marché fléchisse. Car enfin, si nous acceptons nos rentes, sur lesquelles il y aura toujours quelques transactions à faire, les autres valeurs sont peu offertes. Oh, je ne parle pas, bien entendu, des chemins de fer qui font bonne contenance. Oh, s'écria Marthe révoltée, oh, mais j'aime encore mieux les voyous. Son amant la trouva mal élevée, mais il attribua cette étrange sortie à 2 verres de champagne qu'elle avait bu. Marthe se reprocha sa lourdise et désormais elle ne dit mot, étouffant ses rancunes et ses rages. Dès le premier jour, son amant lui déplut. Elle l'exécra dès le premier soir. Il vint vers 2 heures du matin, l'œil guiré, la bouche remplie par un gros cigare. Il causa du cheval qu'il choisirait au prochain handicap, et relevant avec un beau semblant de distraction le bas de ses culottes, il fit voir à la femme qu'il nourrissait un caleçon à trame rose. Comme elle ne s'extasiait point devant cette élégance de clown, il tira un peu son maillot et dit en avançant les lèvres: « Vois donc comme la soie est souple !» Elle garda le silence, attendant cette gracieuse banale, cette amabilité de rencontre que tout être, civil ou si abêti qu'il soit, témoigne la première nuit au moins à la femme qu'il est censé vaincre. Elle eut pu attendre longtemps. Quand il eut achevé son cigare et que, battant du pied, il en eut écrasé la cendre sur le tapis, il murmura satisfait: « Je parie que tu ne devines pas ce que contient cette valise. Non, oh, c'est donc drôle, les femmes, ça ne devine jamais. Eh ben, mais c'est un ex-vêtement de nuit. » Et il étala avec une monstrueuse joie une chemisette en foulard de surat, maïs, mais agrémentée de rubans couleur feu. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait quitté, Marthe songeait à Léo. Quelle différence entre le début de ces deux hommes! Où étaient les respects égrillards du poète, les hâtes si ralenties du déshabillé? Léo défaisait une à une ses jupes, délaçait son corsage, la soie sifflait et lui battait les hanches, sa gorge s'arrondissait à l'aise dans la chemise qui remuait du col aux pieds. Alors il la prenait, la portait dans le lit, faisant la maraude des baisers, tandis qu'elle se pâmait, le corps craquant entre ses bras. Sans doute le soir où elle vint chez lui, les premiers instants avaient été pénibles, mais une fois qu'il s'était saisi corps à corps, une fois qu'il s'était échauffé dans la lutte, de quelle vive délice ne s'était-il pas repu? Cet inoubliable souvenir des nuits d'où l'on sort, les épaules rouges et les tresses moulues, l'opprimante vision de ces moments où les mains s'égarent, tous ces recueillements attendris, tous ces bonheurs à perte d'haleine, l'obsédèrent à nouveau, et furieuse, elle poussa rudement dans l'alcôve son amant, qui se cogna contre le mur, et marmonna tout endormi. Mais non, allez, tu sais, tu m'embêtes, toi, et tiens-toi donc tranquille. Il prit l'habitude de venir tous les jours la harasser de sa présence. Oh, elle l'eût étranglé avec joie, cet imbécile qui la détaillait sans bouger quand elle se mettait au lit. Elle en vint à être tellement importunée par cet homme qu'elle n'eut même plus de goût à le manger ses biens. Elle resta chez elle, couchée pendant des journées entières, fumant des cigarettes, buvant des grogues, anéantie et torpide. Cette solitude qu'elle se créa, renonçant aux visites d'autres femmes, cette somnolence qui ne la quittait plus, devait aboutir, comme autrefois, quand elle habitait chez le poète, à d'admirables, abominables souleries. Elle but à gosier débordant des alcools et des bières, mais quand sa tête s'emplissait de brume, elle revoyait la chambre de Léo. Cet amant, qu'elle avait torturé comme à plaisir, se vengeait par le persistant souvenir de ses bontés. Marthe se vautra dans le vin pour s'égayer et chasser à jamais la hantise du poète. Mais son estomac s'y refusait maintenant. Elle eut d'atroces flambées dans le ventre. Elle dut interrompre ses noyades et un soir, exaspérée de ne pas dormir, les nerfs malades à se rouler par terre, elle sauta du lit, s'habilla, prit une voiture et se fit conduire chez son ancien amant. Ce fut machinal, ce fut inconscient. Les bouffées d'air qui entraient par les embrasures du fiacre la fit revenir à elle. Il était 10 heures du soir, elle fut sur le point d'arrêter le cocher et de descendre du véhicule. Il fallait qu'elle fût vraiment folle pour aller ainsi chez Léo. Demeurait-il toujours à la même adresse? Serait-il chez lui? N'y trouverait-elle pas une autre femme? Et puis, quel accueil lui ferait-il? Si elle fut retournée le soir, le lendemain qui suivit leur rencontre chez Guérinier, nul doute qu'il n'eût crié, nul doute qu'il ne lui eût nié, mais qu'en fin de compte, il ne fût tombé dans ses bras. Sa rage devait être aujourd'hui passée, et avec elle, cette inévitable conséquence, la lâcheté des sens, la faiblesse du cœur. Je pouvais tout simplement la prier de sortir. Marthe hésitait encore quand la voiture s'arrêta. Elle fit un geste qui risquait tout, sonna au plus vite comme pour ne point se laisser le temps de retourner sur ses pas, monta l'escalier et, haletante, frappa la porte de sa main. La porte s'ouvrit et, stupéfié, Léo regarda Marthe et dit: C'est toi? Oui, tu sais, je passais dans le quartier et je suis venu pour savoir de tes nouvelles. Tu vas bien? Oui, mais... Elle lui mit les doigts sur la bouche et reprit. Voyons, ne me dis rien, ne parlons plus du passé. Ce qui est fait, fait. Aussi bien, j'ai pas grimpé des 4 étages pour te chercher noise. Tiens, causons de tout ce que tu voudras. Travailles-tu beaucoup? T'amuses-tu? As-tu trouvé un éditeur? Léo regardait la porte d'un air ennuyé. Ah oui, tu l'attends, murmura-t-elle. J'aurais dû m'en douter. Je m'en vais alors. Elle est brune ou blonde? Blonde et qui plus est honnête. Honnête? Avec cela qu'il y a des femmes honnêtes qui viennent à 11 heures du soir chez un homme. Mais elle est comme nous toutes, parbleu. Plus ou moins de tenue quand elle marche, plus ou moins d'élan quand elle se déshabille et après. Tiens, je voudrais la voir. Je lui désavisagerai la fribousse, moi. Tu verrais bien si son honnêteté ne s'écaillerait pas. Mais que je suis bête, est-ce que cela me regarde, qu'elle soit honnête ou non? À ce moment, la sonnette tinta. Le jeune homme fit un mouvement. Marthe se sentit perdue si la porte s'ouvrait. Elle se campa devant Léo et se pendit à son cou. Il tenta de se dégager, mais les yeux de Marthe prirent feu. Ses lèvres le brûlèrent de leurs flammes mouillées et, pantelante, dégrafée, elle l'entraîna près de la fenêtre. La sonnette tinta plus fort. « Je t'aime !» murmura-t-elle. « N'ouvre pas !» Je me bats avec elle d'abord, si elle met les pieds ici. Il se résigna, furieux d'être ainsi joué. Le pas s'éloignait. Les deux amants se regardèrent sans dire mot. Marthe vint s'asseoir sur ses genoux et l'embrassa. Il se laissait faire, mais ne lui rendait pas ses caresses. Alors, comme achevant d'exprimer une idée qui la poursuivait, elle s'écria. Oh, mais ils se ressemblent tous. Voudrais-tu pas que je les aimasse? Des gens qui se soucient d'une femme comme d'une écale qui serait vide. C'est bon genre d'en charroyer une et de se compromettre avec elle. C'est à ça que nous servons, nous autres, à nous faire plaindre de vivre avec de pareils imbéciles. Et à les faire tuer parce qu'ils fréquentent de semblables drôlesses. Quand ils sont là, notre accoutrement, bonsoir, trouvez-en un autre, ma fille. Et l'on nous reproche de saccager les fortunes, mais c'est la guerre, après tout. L'on ravage et l'on pille. Tiens, tu me parlais autrefois d'une femme, oh, je n'ai pas pu retenir son nom, je suis pas savante d'abord, qui était une statue. Elle s'anima, m'as-tu dit, sous le baiser de l'homme qui l'avait faite. Mais c'est le contraire maintenant, nous devenons de marbre quand il nous embrasse. Ah, si tu savais combien je suis fatigué de jouer ce rôle. Tiens, ce n'est pas vrai, je ne suis pas venu par hasard ici. Je suis venu exprès. Je voulais me réchauffer les pieds contre les tiens. Et c'est bête ce que je vais te dire, mais vois-tu, il y a des jours où ça me semble bon de ne point passer la soirée avec des gens riches. Et puis, c'est bien naturel, après tout. On est ce nourrisseur. Il ne l'écoutait même pas. Elle se résolut alors à le reconquérir quand même. Elle lui saisit la tête à plein bras et, le couvrant de baisers, elle le culbuta dans une charge à fond de train des lèvres. Il dormit mal et dès l'aube, il se leva, s'assit dans un fauteuil et regarda la fille sommeillant dans ses cheveux qui s'épandaient en un torrent vermeil sur le ravin des oreillers blancs. Il avait décidément assez d'elle. Elle lui répugnait depuis qu'il connaissait sa manière de vivre. il la jugeait méprisable entre toutes. Et cependant, comment éviter la pipée de ses yeux, comment échapper à l'affût de sa bouche? Elle se retourna et, souriante, la tête un peu renversée, le cou gonflé, la chemise ouverte, laissant entrevoir sous le brouillard des malines des éclaircies de peau blanche, elle soupira doucement. Il la regardait, étonné de n'avoir plus de désir pour cette femme qu'il embrassait jadis. Il n'éprouvait plus maintenant qu'une honte, une sorte de déchéance, celle d'avoir subi des caresses qu'elle prodiguait aussi largement sans doute à tous ceux qu'elle rencontrait dans ses courses. Certes, celle qui le visitait maintenant était comme maîtresse inférieure à Marthe. Plus d'énergie folle, plus de turbulence charnelle, mais une quiétude profonde, une inertie sans réveil. Léo l'avait ramassée un soir en se baissant et avait poussé chez lui avec cette indifférence des plantes vivaces. Elle était avec cela mariée et séparée d'un époux qui la foulait à coups de poing, et cependant, quand elle y songeait, elle avait de grosses larmes dans les yeux, pleurant sur son sort, répétant qu'elle eût aimé à vivre auprès de lui et avoir des enfants. Elle eût été insupportable s'il avait servi au poète de Havre où il renfloua sa barque en détresse. Il avait même fini par s'attacher à cette pauvre femme, si timide qu'elle n'osait lever les yeux et si peu coquette qu'elle se coiffait la nuit de bas draps à raies. Il regretta de ne pas lui avoir ouvert et il fut à ce moment furieux contre Marthe. Il évitait maintenant de la regarder, mais elle ouvrit les yeux et l'appela près du lit. Il fut presque sur le point de retomber sous le charme, tant elle était fascinante, cette gouge aux prunelles claires. Mais le jour qui blutait sa poudre d'or au travers des rideaux lui montra son visage bleui par les meurtrissures des nuits et cette attitude qui décelait la fille traînée par tous les cloaques des villes. Il ne répondit pas et il sifflota tout en regardant par la fenêtre. Marthe se leva, s'habilla lentement et lui dit « Oh, tu as raison après tout. Nous sommes usés, mon cher. J'ai cru retrouver nos anciennes ivresses et nous ne sommes plus de force, ni l'un ni l'autre, à les faire renaître. Mieux vaut en finir de plus nous voir. Je m'en vais pour de bon cette fois. » Elle lui tendit la main. Il ne se sentit point la force de ne pas l'embrasser sur la joue, et plus ému qu'il ne voulait paraître, il laissa la porte se fermer sur elle. Chapitre 11. Marthe rentra au logis, défaillante et farouche. Son amant l'avait attendue pendant toute la nuit, et il avait préparé pour son retour une série de phrases mi-sentimentale, mi-gouailleuse. Au premier mot qu'il prononça, elle le regarda en face et lui dit « Le loyer est-il à bon nom ?» Et comme il répondait « Oui », « En ce cas, cria-t-elle, vous feriez pas mal de me ficher votre camp !» Il fut étonné, balbutia quelques injures et finalement emporta sa chemise en foulard de soie et disparut. Quand il eut quitté la chambre, elle respira et, courant à l'armoire, avala d'un trait un grand verre de kirsch, puis elle saisit avec rage le goulot du flacon et but à même. Cette ribote la rendit malade et plus triste que jamais. Une foule de jeunes gens va la voir, se proposant de remplacer leur ami dans ses bonnes grâces. Elle préféra les avoir tous plutôt que d'en endurer un seul, et elle recommença son ancienne vie, ne se sentant aucune affection, aucune tendresse pour tous ces gens qui faisaient la chaîne le long de sa couche, comme si elle eût été brûlée dans un incendie d'amour. Elle en arriva à prendre pour amant de cœur d'ignobles hommes aux casquettes bouffies, et portant sur les tempes les stigmates des infâmes, les accroche-cœurs. Cela la dégoûtèrent plus encore, et elle s'ingénia à passer les nuits seule. Alors, sous les courtines de soie pâle, dans l'insomnie qu'elle ne pouvait vaincre, elle songea au passé. Elle en vint à pleurer sa petite fille qui était morte en naissant, et à aimer presque le jeune homme qui l'avait soignée dans cette crise horrible. Puis, à mesure que sa lamentable vie se déroulait devant elle, comme les tableaux changeants d'un kaléidoscope, elle frissonnait, mesurant la profondeur des boues où elle avait plongé. Et quand elle arriva à cette phase de son existence où elle avait servi dans le régiment des mercenaires, alors là, dans le silence de l'alcôve, se dressa avec sa robe bariolée, ses hurlements de sinistre joie, le spectre des maisons de filles. Elle entrait, confuse, et des âmes, rendues charitables par l'ivresse, lui disaient « Mais n'aie donc pas peur, tu t'y ferais bien vite. » Puis on la déshabillait, elle n'avait plus pour tout vêtement qu'une mousseline sous laquelle son corps s'estompait en rose. L'on apportait des verres et elle se mettait à jouer au nain jaune, des mocos de bière louche jusqu'à l'arrivée de monsieur Henri, le coiffeur chargé de ratfistoler les femmes. Quand chacune avait sur le crâne un étage de tignasses et au-dessus du front un tas de banderoles et de fleurs, on buvait l'absinthe, on brassait à nouveau les cartes, attendant l'heure d'appareiller, soit pour Lesbos, soit pour Cythère, et après le dîner, enfin, tout le monde descendait au salon. Et debout sur le seuil, la mère Jules guettait. Il venait 2, 3, 20 personnes. On demandait à boire, on montait au premier. Puis le timbre sonnait et toutes se bousculant, se chatouillant, se pinçant, dégringolaient l'escalier, 4 à 4, faisant tourbillonner dans la vapeur rouge des gaz leurs oripeaux de théâtre ou se découpant, blanches et nues, sur le faux marbre des murailles. On atteignait ainsi 11 heures, la table était prête pour le souper, et tout l'escadron remontait et s'empiffrait des rondelles de cervelas, des tartines de rillettes, des parts de lapin aux pommes, et le timbre retentissait encore. Chacune avalait le morceau qu'elle avait en bouche, et pour la 20e fois, elle s'engouffrait avec un bruit de tempête dans la salle du marché, puis remontait, sauf une ou deux, qui rentraient plus tard les bas luisants des pièces d'argent ou d'or. Mais c'était vers 1 heure du matin que le délire atteignait son intensité suprême. Les passagers affluaient. Alors les gambades et les cabrioles, les piétinements et les huées ne cessaient plus. Les filles luttaient entre elles de bêtises et d'entrain. Elles sautaient, se trémoussaient, se tordaient, les lèvres éclaboussées de lacrose, les dents frottées de ponce. Fouettées par le vin et peuronnées par l'alcool, elles hennissaient, regimbantes ou s'abattaient, fourbues et veules, sur les divans. D'autres fois, au terme de la veillée, vers 3 heures du matin, alors que toutes les femmes demandaient aux hommes de leur dire l'heure et persistaient à les étourdir de l'éternel refrain « Tu perds à boire ?» Un monsieur entrait et disait à l'une d'elles « Va t'habiller, je t'emmène !» Et il s'installait, les jambes croisées, fumant son cigare, attendant que son achat lui fût remis, empaqueté dans de l'étoffe noire. L'on entendait alors des appels dans l'escalier, la femme demandant une chemise à madame, attachant avec des épingles les jupes qu'on lui prêtait. Elle descendait enfin, débarrassée de son rouge et de sa poudre, et allait embrasser ses camarades, comme si, partant la nuit à l'aventure, elle craignait de ne les plus revoir. On sortait, et appuyée sur la rampe, la loueuse criait de sa voix brève: « Je t'attends demain à midi, ne t'abuse pas en route !» Ce fut une nouvelle fascination pour Marthe. Ce fut cette attraction du vide sur lequel on se penche, que cette vie chauffée à blanc, que ces culbutes, que ces pirouettes, que ces verres vidés sur le coude, que ces disputes entre l'une et l'autre pour un ruban, pour un homme, que ces raccommodements entre deux galops. Et elle se souvint avec un singulier plaisir de ces ardeurs et de ces fièvres qui la faisaient délirer et se tordre, comme cette frénésie et ce vertige qui font ululer et bondir les derviches hurleurs, affolés par le tournoiement de leur ronde. Et puis, c'était une déroute de toutes les idées tristes, une abdication volontaire des luttes d'ici-bas que ce désordre sans cesse attisait. La prison éloignait toutes les difficultés de l'existence. On ne s'occupait plus de rien, sinon de gagner assez pour perdre au jeu et s'ivrogner si les passants se refusaient à payer l'écho. Et cependant, quelle misère et quelle abjection! Sans doute elle s'y était faite aux baisers méprisants des hommes. Mais les premiers temps, comme les goûts de cette bourbe lui avaient tenu en bouche. Le chaland se levait le matin et dégrisé, reconnaissant l'endroit où il avait couché, furieux contre lui-même, plein de dégoût pour la femme qu'il avait frôlée, il s'habillait en un tour de main, secouait le blanc qui marbrait ses habits et s'échappait sans même lui dire adieu. Elle entendait son pas précipité sur les marches, puis il s'arrêtait près de la porte, attendant que l'omnibus fût passé pour sauter dans la rue et s'enfuir. Et quelle humiliation! Lorsqu'elle-même, ayant passé la nuit dehors, rentrait au jour. Le laitier et le boucher, fumant leurs pipes sur le pas de leur boutique, avaient des rires insultants et lui crachaient aux jambes, quitte à venir les lui embrasser le soir. Enfin, grâce à Jean Ginet, qui avait répondu d'elle, se disant prête à l'épouser, elle n'était plus sujette du bureau des mœurs, et la pensée qu'elle allait refaire à nouveau partie de ce bétail que la police doit surveiller et traquer sans relâche, lui donnait froid dans le dos. Elle ne se dissimulait pas les douloureuses voluptés de cette servitude, et cependant elle était attirée par elle comme un insecte par le feu des lampes. Tout lui semblait valoir mieux d'ailleurs, le péril des tempêtes la chassant merci que cette navrante solitude qui la minait. Elle se réveillait de ses visions, l'esprit détraqué, les joues en sueur. Elle suffoquait dans sa chambre, et parfois elle descendait pour prendre l'air et, se traînant le long des murs avec une démarche et des gestes de mourante. La fraîcheur du matin, le clair soleil, chassaient ses rêves et elle allait tomber sur un banc, dans un jardin public ou dans un square, regardant le sol qu'elle creusait avec la pointe de ses bottines, tamisant au travers de ses doigts de la terre en poudre. Mais tous ces enfants qui faisaient des petits pâtés avec des seaux en fer blanc l'exaspérèrent. Ils lui rappelaient le temps où elle aussi se verrouillait dans la poussière et plantait les branches d'arbres sur des tas de cailloux. Elle se prit alors à errer dans Paris et, un jour qu'elle déambulait ainsi au hasard, elle tomba au détour d'une route devant une caserne à l'heure où les mendiants viennent chercher la soupe. Elle s'arrêta dans une sorte de cul-de-sac, bordée au nord par cette caserne. Quelques marchands de vin ou buvaient à l'ombre de pins en caisse des vieillards pansus comme des tourailles. et au sud, par une échoppe à friture et à crêpes, un restaurant interlope avec ses bols de riz au lait et ses crèmes tremblantes, et par un sordide marchand de bric-à-brac, à la porte duquel pendaient en désarroi des crinolines dont les chairs s'étaient dissoutes et dont les carcasses d'archal sonnaient au vent. Plus près, enfin, à l'entrée de l'impasse, trois arbres aux troncs flasheux dressaient de leurs manches de terre des bras éplorés et difformes. Une pelletée de misérables avait été jetée dans le ruisseau au pied de ces trois arbres. Il y avait là des pauvresses aux poitrines rases et au teint grisâtre, des ramassis de brancoches, des borgnes et des ventrées de galopins morveux qui soufflaient par le nez d'incomparables chandelles et suçaient leurs doigts, attendant l'heure de la miche. À côté, accroupis, couchés les uns contre les autres, ils agitaient des récipients inouïs, casseroles sans queue, pots de grès cravatés de ficelle, bidons cabossés, gamelles meurtries, bouillottes sans anse, pots de fleurs bouchés par le bas. Un soldat leur fit signe et tous se précipitèrent en avant, tête baissée, aboyant comme des dogues, puis quand leurs écuelles furent pleines, ils s'enfuirent avec des regards voraces, et le derrière sur le trottoir, les pieds dans le ruisseau, ils avalèrent goulûment leur baffre. Marthe frémit à la vue d'un vieillard qui buvait sa soupe à même d'une chaufferette, et elle regarda, tout interdite, ce visage feutré d'une barbe grise, ces yeux clignotants et troubles, ce nez qui perçait, tout praliné de rouge, la courte flasque et comme morte des joues. Ce crâne peluché, ces loques cousues avec des ficelles, ces habits couleur de bouse, cette culotte mangée des mites étoilée de trous, cuirassée de fange, ce gilet racorni, rongé, ratatiné par tous les soleils et par toutes les pluies, ces savates sans nom, éculées et avachies, ouvrant, pour laisser passer l'orteil, des lucarnes de cuir roux. Cette figure, enfin, ravagée par tous les excès, ce hideux tremblotement des jambes, ces mains qui dansaient toutes seules sans que l'homme les remuât, les murs d'une poignante pitié. Et elle plaignit, alors que le mendiant s'approcha d'elle et lui dit à voix basse: « Tu me reconnais pas? Je suis Jean Ginet. » Oh! fit-elle abasourdie, comment c'est toi? Et tu en es arrivé là? Il a bien fallu. J'ai tout mangé, j'ai tout bu, j'ai fait faillite comme un vrai commerçant. Ratiboisé, ma chère. Et avec ça, plus de voix, plus même plus filer un son. Le bâtard de ma sonnette est perdu. Je l'aurais avalé par mégarde dans le fond d'un litre. Hein? Je suis changé, dis donc, ah, dame. Je suis vêtu sans prétention et sans chic. Mon elbeuf se déforme, mon grimpant se détraque et mes bottes sont blettes, que veux-tu? Ça vous vieillit un homme que d'être dans la misère et d'avoir toujours soif, mais voyons, parlons un peu de toi. Cette ductée est toujours mignonne, et qui plus est, grandement fignolée. Tu dois être riche. Ah, mais alors, tu devrais bien me prêter quelques sous pour boire une chopine. Étendant un affreux bourgeron, il ajouta avec son effroyable sourire: Un journée, ma princesse, ça vous portera bonheur. Les yeux de Marthe eurent comme une explosion d'ivresse. Ah, dit-elle, depuis le temps où tu me rouais de coups, tu n'as point fait fortune. Cela doit te paraître dur, hein, de me demander l'aumône. Puis, à la vue de ce visage, tanné comme fumé par la misère, sa jactance tomba. La pitié lui revint au cœur. Elle embrassa la barbe hideuse du comédien et lui jetant tout ce qu'elle avait en poche. Bah, dit-elle, nous nous valons. C'est égal, mon cher, si c'était à recommencer. Sais-tu qu'il vaudrait mieux bûcher, trimer, pour de vrai? Ça rapporterait plus. Chapitre 12 et dernier. L'homme qui est à l'hôpital de la Riboisière, préposé tout à la fois au service des écritures et du balayage de la salle des autopsies, poussa la petite porte qui sépare cette pièce de la chambre des morts, ferma les rideaux blancs des lits, épousseta l'autel, renouvela dans les terrines les provisions de chlore, repiqua sur le bois d'un cercueil un laissez-passer qui s'envolait, remaillota dans le drap le pied d'une femme, but un coup de vin et, sans paraître incommodé par l'épouvantable odeur fade qui se dégageait des deux salles, il repassa dans la première qu'il nettoya à grand renfort de seaux d'eau. Cette pièce était exclusivement meublée de tréteaux doublés de zinc et d'une fontaine qui chantonnait près de la porte. L'homme jeta au passage un regard indifférent sur un cadavre de vieillard couché sur l'étain, les jambes rapprochées, le ventre gonflé comme un ballon, la figure atrocement révulsée, et prenant une éponge, il se mit en devoir de récurer les tables de la dissection. Il s'assura que leur trou n'était pas bouché, que le seau de fer-blanc était bien pendu au-dessous de leur orifice, puis il déposa dans la vasque de la fontaine son éponge qui se dégorgea, but une nouvelle lapée de vin, aperçut une grande tache rouge qui marbrait la rigole, et prit soudain une fringale de propreté. Il rangea le long du mur un baquet rempli de son, une paire de galoches, deux bocaux où marinait dans un bain d'alcool une horrible bourbe veinée de rose, tira les ficelles des vasistas qui surmontent les deux fenêtres, sortit et s'enfuit au-devant de deux infernes, un tablier blanc et à calotte noire, qui refermaient la porte de la salle Saint-Ferdinand bis. C'est égal, disait l'un. Lorsqu'on apporta sur une civière ce malheureux Ginginet, j'ai reçu comme un chaos dans l'estomac. J'ai revécu en une minute toute ma vie d'autrefois. Oh, je me suis rappelé le temps où, vêtu d'une vareuse rouge, je hurlais au poulailler de Bobinche, insultant Ginginet et applaudissant Marthe. Je me suis rappelé enfin ce fameux soir où je conduisis Léo dans la rue de l'Ourcine. Tiens, répliqua l'autre, et qu'est-il devenu, ton ami Léo? Oh, mon cher, c'est toute une histoire. Il s'est enfin décidé à me répondre. Imagine-toi que. Mais non, tiens, lis plutôt sa lettre. Oh, je t'assure qu'elle est curieuse. Ce fut à ce moment que le gardien les rejoignit. Eh bien, père Machin, lui dirent-ils, quoi de neuf? Je vous cherchais, tout sale vieux. Il y a, paraît-il, un sujet intéressant ce matin. On va disséquer un homme qui s'est laissé bourrir à force de ligoter. Il avait, disait le médecin, un tas de maladies plus épatantes les unes que les autres. Mais vous avez bien dû en entendre parler, monsieur Charles. C'était le numéro 28 de la salle Saint-Vincent. Ah, fichtre! S'écria le jeune homme. Mais alors c'est Jean Ginet qui est mort, et moi qui voulais aller prendre de ses nouvelles. Enfin, nous irons au moins voir son autopsie à ce pauvre diable. Et ils marchèrent d'un pas plus rapide. La séance n'était pas encore commencée. Ils s'accotèrent, après avoir échangé force poignées de main avec les assistants, contre la fontaine et, dépliant la lettre, ils lurent à mi-voix. « Tu me demandes ce que je fais et à quoi je passe mon temps ?»« Je vague, mon ami, au bord d'une rivière. Je regarde couler l'eau et je ne pêche pas. Je me promène et je dors. J'arrose aussi des fleurs, je fume des bouffards d'un culottoir. Je bois du vin âpre, je mange des ratas succulents. C'est-à-dire que je me porte à ravir et que j'ai eu bien du mal à trouver un encrier pour t'écrire ces quelques lignes. Mais causons maintenant de ceux que j'ai laissés depuis tantôt 2 mois dans Paris. Marthe, me disais-tu, est rentrée dans le tripot qu'elle habitait jadis. Oh, tu aurais pu, pour m'apprendre cette nouvelle, éviter toute espèce de circonlocution. C'était fini entre nous, et tu le savais. À défaut d'affection, j'ai même plus d'intérêt pour elle. Sa vie ne changera guère maintenant. Admettons encore une alternance de richesse et de misère, et ce sera tout. Elle finira dans une crise d'ivrognerie ou se jettera un jour de bon sens dans la Seine. En vérité, ce n'est plus la peine que nous occupions d'elle, et puis, que peut me faire ce qu'elle deviendra? Car il faut bien que je t'annonce une grande nouvelle. Je me marie. Là, ne t'exclame pas. Écoute, quand nous étions réunis chez moi, que de plaisanteries, que de gorges chaudes nous avons faites sur le mariage. C'était banal, c'était bête. Deux individus se réunissaient à une heure convenue, au son d'un orgue et en présence d'invités impatients d'aller se repaître de mecs qui ne leur coûteraient rien. Puis, au bout d'un nombre de mois déterminé, sauf accident, il donnait le jour à d'affreux bambins qui piaillaient pendant des nuits entières, sous le prétexte qu'ils souffraient des dents, et alors, dans le grésillement des pipes, nous décrétions que jamais un artiste ne devait s'en juponner sérieusement. Comme vous me l'avez baillé belle avec votre liberté que le mariage étranglait. Vous étiez à peine sorti de chez moi que vous couriez la perdre avec des ramassés quelconques. Ah ça, voyons, est-ce que tu ne les méprisais pas autant que moi, ces filles dont tu te disais épris? Est-ce que, lorsque nous restions en tête à tête avec elles, tous nos instincts de gens bien élevés ne se rebellaient pas devant leur grossière native? Est-ce que vous ne finirez pas comme moi, quitte à épouser, comme l'ont fait plusieurs d'entre nous, des filles de sorcières ou de concierges qui se tireront les cartes et ne se peigneront plus le jour où elles auront traîné leur robe sur le parquet d'une mairie? Et bienheureuses encore les camarades lorsqu'elles auront des jupes bâties à corps d'épingle et des teignasses qui brandiront au vent. Celles-ci se laissent parfois cacher, mais quand on fait comme notre ami Brice, qu'on épouse une fille de bohème, dont Dieu sait qui eut l'entame, une dodon qui enveloppe de robes carnavalesques ses grâces de laveuse et veut faire la dame, s'imposant quand même chez les gens qui ne l'invitent pas, les forçant à la faire asseoir devant une table qu'elle devrait les servir, mais ça devient tout simplement odieux, car celles-là sont des ordures de ruisseaux qui leur gargouillent dans la bouche et qu'elles lâchent au dessert en même temps que les agrafes de leur corset. Et voilà où nous en arrivons, nous autres, les indépendants. Épouser sa maîtresse, c'est être aussi bête que Gribouille qui, de peur de la pluie, se jetait dans l'eau. Et puis encore, faut-il en trouver des maîtresses? Oh, j'en ai eu, parbleu, des femmes à tant le vert, mais j'avais le vin triste. Et c'est alors que j'ai couru après ces fillettes qui se pendent le dimanche au bras des ouvriers. Mais elles ne m'ont pas aimé, moi. n'étaient pas de leur monde. Elles me trouvaient poseur, embêtant, enfin. Et pourtant, l'une s'amouracha de moi pendant 8 jours. Ce fut accablant, mon cher. Je dus sortir avec elle en cheveux, supporter ses rires éclatants dans la rue, subir ses abominables expressions, vraies, pour sûr, ou alors. Eh bien, c'est à la suite de ces promenades que j'en vins à chercher, parmi les filles les plus pimentées de toilette, à trouver des réveillons de désir dans une fleur de poudre, dans un Renault de phare, à me gaudir enfin devant une gorge noyée dans une brume de dentelle que déchirait l'éclair des rubans pâles. Et j'étais sincère alors. J'aimais moins une femme pour elle-même que pour ses bouffettes et ses chiffons. Quelle absurdité! Et comme aujourd'hui que la raison m'est venue, je m'étonne d'avoir été si bête. Je n'ajouterai pas à ta stupeur en te faisant l'éloge de ma femme, on ne craint rien. Je ne te dirai point qu'elle est belle, qu'elle a des yeux de saphir ou de jaillet, et que ses lèvres sont cinnabrines. Non, non, elle n'est même pas jolie, mais qu'importe. Ce sera terre à terre que de la regarder le soir, ravauder mes chaussettes et que de me faire assourdir par les cris de mes galopins. D'accord, mais comme malgré toutes nos théories, nous n'avons pas pu trouver mieux, je me contenterai de cette vie, si banale qu'elle te puisse sembler. Que te dirais-je de plus? Je ne suis pas un fier sicambre, mais je brûle tout ce que j'ai adoré. Et quant à Marthe, puisque tu me parles encore d'elle à la fin de ta lettre, je lui pardonne toutes ses vilainies, toutes ses traîtrises. Les filles comme elles ont cela de bon qu'elles font aimer celles qui ne leur ressemblent pas. Elles servent de repoussoir à l'honnêteté. Mais je t'embête, hein, mon pauvre vieux. Pardonne-moi tous ces rabâchages et dans ta main que je la serre. « Sacré nom !» dit le jeune homme en repliant la lettre. Mais ses camarades le poussèrent du coude pour le faire taire, et le père Briquet, décalotant d'un coup de ciseau le crâne du comédien, commença de sa voix traînante : « L'alcoolisme, messieurs !»